Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Cube Radio.
Après leur éclatante victoire sur les 49ers, est-ce que les Ravens vont poursuivre leur travail de démolition contre les Dolphins?
I knew you were trouble when you walked in.
Est-ce que Taylor Swift est un trop gros problème pour les Chiefs dans le vestiaire? Ce sont, pour plusieurs, les finales de vos ligues fantasy football. Est-ce que vous êtes fiers de votre saison? On en parle à la zone payante. Des Québécois poursuivent leur chemin dans la NCAA. Le football québécois commence enfin à être reconnu à sa juste valeur. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de La Zone payante. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Nicolas Gagné, heureux de vous retrouver dans ce entre Noël et jour de l'an 2023. Mm-hmm. Et je rejoins mon partenaire de toujours, Stéphane Calorette, expert au Journal de Montréal et de Québec en football de toutes sortes. Salut Steph.
Comment ça va, Jean-Nic? Hey, on pourrait dire c'est toujours les mêmes qui sont là. Hein?
C'est vrai, nous on est toujours sur le pont en train de nettoyer pendant que les autres sont en train de faire le party avec les officiers. Nous, on est sur le pont, puis on surveille les icebergs, puis on travaille.
Et voilà, mais on aime ça, on aime ça.
Oui, on aime ça, puis je te dis qu'on s'en parlait un petit peu, c'est pas facile de suivre le football quand les matchs sont la veille de Noël, le jour de Noël.
Et Noël, ouais, et Noël. Ça brasse, mais écoute, on arrive à quand même à travers quelques bouchées. On se fait un bon compte-rendu. Moi, j'ai particulièrement suivi le match Détroit-Minnesota, entre autres. J'en ai suivi pas mal là, quand même. Mais Détroit-Minnesota, bon, évidemment que j'avais un parti pris, mais je peux pas faire autrement, Jean-Nic, que de te souligner que Détroit, ça fait quand même 30 ans qu'ils attendaient ça, un championnat de division. C'est pas rien. Fait que félicitations au Lyon, je vais être bon prince. Tu sais, c'est un club cette année quand même qui a donné un bon show, je pense. Puis oui. Ça fait du bien des fois de voir du changement. Puis tu sais, quand ça fait 30 ans que t'as pas vu un événement comme
la
celui-là.
La bannière.
Ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis là, après, est-ce qu'ils peuvent aller plus loin? On verra là en série qu'est-ce que ça peut donner. Mais il reste qu'un championnat de division, c'est un championnat de division. Puis fallait être bon prince, puis le souligner d'entrée de jeu.
Bon, moi, j'aimerais ça que tu me parles d'un match que j'ai regardé quand même avec attention, le match entre les Raiders et les Chiefs. Et là, on commence à se poser la question, est-ce que Taylor Swift est rendu une grosse distraction pour... Tu sais, on en parlait, le premier, je sais pas si tu te rappelles, le premier épisode qu'on a fait, qu'on a parlé de Taylor Swift, on se disait, Taylor Swift, est-ce qu'elle est pas trop grosse pour Kansas City? La ville, l'équipe, c'est-tu comme un trop gros game changer pour rentrer dans une équipe comme ça? Puis là, en tout cas, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il reste que les Chiefs, il y en a plusieurs qui commencent à se dire, ça fera pas long feu en série si ça continue. Là.
Ouais, ben en tout cas, est-ce que Taylor Swift a rapport là-dedans? On le saura jamais. Mais tu sais, c'est sûr que les Chiefs, cette année, on regarde ça, puis... Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Puis c'est de valeur parce que c'est la meilleure défensive de l'ère Patrick Mahomes, clairement. Là. Tu sais, tu regardes toutes les statistiques, c'est même pas proche. Là. Il y a eu des années où il faisait tout seul. Là, cette année, il y a une super défense, mais écoute, c'est l'attaque qui bloque tout à coup. Je me pose la question, moi, à un moment donné, est-ce que la perte d'Eric Bieniemy a été sous-estimée? Je commence à me demander ça. Parce qu'on n'a pas parlé cette année. On s'est dit, ben, tu sais, écoute, c'est Andy Reid qui colle les jeux. C'est Patrick Mahomes, le corps arrière. L'année passée, il n'y avait pas tant de bons receveurs. Tout a fonctionné quand même. Je commence à me poser de sérieuses questions. Est-ce que ça peut être une piste? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça dommage, là, ce qui se passe là-bas. C'est la première fois.
Moi, je te
fois,
le dis, en tout cas, Taylor Swift, je pense que c'est une distraction. Là. Je pense pas que c'est la piste, mais je pense que c'est une distraction. Écoute, veux pas, là, tu sais, Patrick Mahomes faisait poser la question aussi en conférence de presse. Il dit, hey, quand que Taylor Swift a commencé à sortir avec Travis Kelce, comment que ça a été, là, bon, on en parlait pas, puis après ça, on a commencé à en parler, puis là, elle fait vraiment partie du Chief Kingdom. Tu sais, je sais pas, là. Pendant ce temps-là, tu te concentres pas sur le football quand c'est le talk of the town pendant les pratiques puis dans le vestiaire. Je sais pas. Moi, je pense que ça, c'est une distraction, c'est sûr.
J'ai de la misère à croire que des pros comme Mahomes, comme Travis Kelce, tu sais, c'est pas des deux de pique, c'est pas des impressionnables, là, c'est pas des débutants. En tout cas, écoute, je te dis pas que t'as tort, on le sait pas. Mais j'ai vraiment de la misère à figurer que ça fait partie là, du problème. Mais c'est ton
bon. Jamais. Alors, est-ce que tu as vu un peu, par exemple, comment ils sont à fleur de peau, comment Travis Kelce a pété son casque sur le bord, puis comment Andy Reid a été obligé de dire « calme-toi ». Tu sais, il reste que ils ont de la pression, il y a un spirit cette année autour des Chiefs. On a vu plusieurs fois Patrick Mahomes pogner les nappes. Là, je ne sais pas si tu as vu une vidéo qui circule, mais tu le vois à attendre le jeu dans son casque, puis il dit « call the fucking play ». Fait que tu sais, il y a un spirit qui est pas parfait là, cette année.
Non, c'est ça. Il y a le train qui déraille un peu, puis c'est ça. Là. Effectivement, tu sais, la colère de Kelce, là, c'était quelque chose. M'emmener à garrocher des casques comme ça, tu vas finir par frapper quelqu'un. Puis Mahomes l'a fait une fois ou deux aussi cette année. C'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration dans l'équipe. Je peux pas croire que c'est dirigé à l'endroit d'Andy Reid. Je comprends quand tu dis « call the fucking play », mais il y a tellement normalement une bonne entente. On respecte tellement Andy Reid là-bas que je pense pas non plus que c'est la source du problème. Moi, je continue de me dire que à un moment donné, t'as tout mis entre les mains de Mahomes pendant maintenant quelques années. Tu mises sur le fait qu'il va sortir sa cape au bon moment. Ça peut pas finir autrement que de faire mal. Tu sais, ça me rappelle un peu... rappelle-toi les Patriots, là, ça devait être autour de 2005-2006. Ils se fiaient énormément sur Brady. Il avait gagné 3 Super Bowls à ce stade-là. Il est capable de bien faire paraître n'importe quel receveur. Puis là, tout à coup, en 2007, qu'est-ce qu'on a fait avec les Pats? Ben, ils sont allés chercher Randy Moss. Ils sont allés chercher Wes Welker. Ils sont allés chercher Dante Stallworth. C'est comme s'ils se sont dit, OK, c'est bien beau, là, on l'a vécu, Brady qui essaie de tout faire. On essaie de presser le jus du citron au maximum, mais il faut l'aider maintenant. Puis là, tu vas me dire qu'en 2007, ils n'ont pas plus gagné le Super Bowl. Non, mais ça a été quand même l'équipe...
8-1.
C'est ça. Là, tu regardes dans une saison, là, si on exclut le Super Bowl qu'ils ont perdu, ça a été possiblement l'équipe la plus dominante de l'histoire. Là. Fait que, est-ce que les Chiefs vont en arriver un peu à ce genre de conclusion-là, là, que c'est bien beau, là, Mahomes, il est excellent, mais faut lui donner un petit coup de main de plus? Peut-être. Est-ce que Travis Kelce est blessé en ce moment? Il y a des rumeurs. Est-ce qu'il est simplement vieillissant? Ça sera encore pire. On se doute là, qu'il s'en va pas sur la pente ascendante, mais il avait quand même montré aucun signe de déclin jusqu'à cette année. Je souhaite quasiment pour lui que ce soit plus physique qu'une blessure là, que un joueur qui est vraiment, vraiment sur son déclin, parce que même lui est différent cette année.
Je sais pas si tu as regardé aussi tout l'appréhension qu'il y avait face au match entre les Ravens et les 49ers et le résultat qui est sorti de ce match-là. C'était ça a été 13-12 un petit moment. On se dit, c'est encore serré. Mm-hmm. Et ensuite, les Ravens n'ont plus jamais regardé derrière eux. Puis les 49ers, 4 interceptions, même 5, une fois que Sam Darnold est rentré.
En incluant Darnold, c'est ça.
Fait que tu sais, est-ce que c'est juste un match ou est-ce que c'est vraiment un signe qu'il y a maintenant une équipe dans la NFL à battre, puis c'est les Ravens?
Ben, c'est l'équipe à battre, mais je pense pas que c'est un match qui doit faire foi de tout. tu sais, on le voit régulièrement dans la NFL, ces deux clubs-là, à part au Super Bowl, peuvent pas s'affronter une deuxième fois. Mais combien de fois qu'on voit des duels de division où un club est très dominant, puis la fois d'après, c'est l'autre. On l'a vu, entre autres, Dallas-Philadelphie. Quand Dallas a battu les Eagles, c'était quand même assez convaincant. Puis on se dit pas pour autant, ben, les Eagles, c'est fini. Fait que je pense pas qu'il faut dire ça des Niners, mais c'est sûr que les Ravens ont passé tout un message. Là. Écoute, non seulement ils ont battu, ils ont tabassé. Le pointage, tu regardes, OK, 14, c'est pas si pire que ça. Mais à partir du troisième quart, les Ravens ont carrément pris le contrôle de ce match-là. Là, ça semble clairement être eux qui vont mettre la main sur le bail en première ronde, l'avantage du terrain. Tu sais, les séries dans l'AFC vont passer par Baltimore. C'est un très, très gros avantage.
Tu dis ça vite, tu dis ça vite.
Écoute, j'ai hâte de t'entendre sur Miami-Baltimore en fin de semaine, mais j'ai une petite idée, disons. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais tu sais, sinon, là, écoute, y a des clubs là que c'est très dommage. Là, tu sais, je regarde Cincinnati, ils vont s'être bien battus cette année. Mais là, la magie commence à tomber tranquillement. Là, ils sont 3-7 dans leur conférence, 0-5 dans leur division. Je pense que c'est pas mal la fin. Les Colts là, commencent à montrer des signes de tu sais, les fondations craquent un peu. Il y en a une couple là, qu'on commence à se dire, OK, c'était peut-être un peu... Sans parler d'un flouque, c'est des équipes qui ont surpassé les attentes dans les circonstances. Mais il reste que je pense que tranquillement, on voit les équipes se placer là où ils devraient être logiquement.
OK, on fait une pause, Steph, et après la pause, on va en parler en plus en profondeur des matchs de la semaine et des équipes qui vont jouer des matchs pour une place en série. Bougez pas.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vous êtes à la Zone payante, un podcast de Cube Radio, oui, en compagnie de Jean-Claude Gagné, de Stéphane Cadaret. OK, Steph, on y va. Hey, là, j'ai-tu vu qu'ils nous ont enlevé notre Monday Night là, cette semaine?
Ben oui, à moins que je me trompe. Moi aussi, je restais bête en voyant la cédule la semaine. Je me suis dit, comment ça, il n'y a pas de Monday Night? D'habitude, ça, c'est la dernière semaine de l'année. La semaine 18, habituellement, il n'y a pas de Monday Night.
Incroyable.
À moins que je me trompe, là.
Probablement
que c'est dû au 1er janvier, je sais pas, là.
Écoute, c'est tes Vikings qui vont clôturer le week-end contre les Packers. Mais avant de parler de ce match important, on va quand même commencer par le match de jeudi. Il y a un match jeudi.
Puisqu'il le faut, hein.
Les Jets contre les Browns. Le bon vieux Joe Flacco. Joe Flacco qui a déjà battu toutes les... Ben écoute, il est le quatrième quart cette année pour les Browns. Et dans plusieurs statistiques, il est déjà loin devant avec seulement 4 matchs de jouer. Est-ce que tu vois encore une victoire des Browns en fin de semaine? Et les Browns qui se détachent comme la troisième meilleure équipe de la conférence?
Ouais, ça c'est vraiment impressionnant. Hey, les Browns, chapeau, là. Toutes les blessures qu'ils ont eues, oui, au poste de corps, on en parlait la semaine passée, sont rendus à leur quatrième et cinquième bloqueur. Il y en a eu un paquet d'autres, là. Regarde Nick Chubb sur la ligne à l'attaque. En défense, Denzel Ward a raté des bouts de l'année. C'est quand même leur demi de coin numéro un. Ils ont été très, très, très maganés. Toutes les excuses étaient tracées pour que ce club-là s'écrase puis que tout le monde se dise « Ouais, mais regarde, c'est normal. Il n'y avait plus personne. » Et Joe Flacco, là, franchement, moi, il y a une stat que j'ai vue qui m'a impressionné. C'est le premier carrière dans l'histoire de la franchise, là. T'sais, on parle quand même d'une franchise historique, là. Qui a 300 verges et plus dans 3 victoires de suite. Imagine ça un peu. Joe Flacco, qui est sorti de son divan le 20 novembre.
C'est le premier corps arrière de l'histoire des Browns à faire ça.
Je te jure, j'ai vu ça, j'étais attends, ça se peut pas. Mais tu sais, traditionnellement, les Browns. Non, Bernie Kosar, tu sais, c'était un bon corps arrière des années 80, mais pas nécessairement monsieur statistique. Écoute, moi, ça m'a renversé, puis je pense que la magie va continuer. Il y a quelque chose avec ce club-là. Amari Cooper, qui est exceptionnel en passant, là. 265
Unguardable.
Ah non, regarde, c'était merveilleux. Puis les Jets, ben, ils jouent bien en défense depuis le début de l'année, on le dit, mais quand même, depuis quelques semaines, la défense commence à craquer aussi. Ouais. M'en est quand tu traînes l'équipe toute l'année puis qu'il se passe rien, ben, tu finis quand tu donnes des points. Fait que ça va être les Browns jeudi soir.
D'accord, moi aussi, je joue avec les Browns. On s'en va à Dallas, qui sont un peu en lendemain de veille. Ça fait deux matchs difficiles sur la route. Il accueille les Lions. Les Cowboys sont favoris par 6 à domicile contre les Lions. On respecte encore beaucoup les Cowboys du côté des preneurs au livre. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ben moi, oui. Je commence à croire vraiment à la théorie que les Cowboys, c'est des homers. Là. Écoute, ils gagnent. Non seulement ils gagnent, mais ils sont hyper dominants à la maison. Puis sur la route, ils ont toutes les misères du monde. Ils ont à marquer des points. Ça devrait aller encore dans ce sens-là. T'sais, c'est pas que j'aime pas ce que Détroit fait. Mais la défense a des failles quand même. Là. T'sais, t'as donné à peu près 400 verges à Nick Mullins.
Pourquoi oui, il y a eu 4 interceptions. Que ça par les airs?
Écoute, c'est pas une équipe qui a une superbe tertiaire. Côté pression sur le corps, ben t'as Aiden Hutchinson, évidemment. Mais en dehors d'Aiden Hutchinson, ça va prendre du renfort l'an prochain. C'est clair que c'est un point d'emphase. Mais tu sais, ça va être difficile encore là, contre les Cowboys côté défensif. Puis, il y a vraiment quelque chose. Ils trouvent pas Lions, là. Ouais.
Mais si tu me dis ça des Lions, ça veut dire qu'en série, c'est one and done. Là, ils se rendront pas loin. Si tu me dis que c'est justifié qu'il soit négligé par 6 points à Dallas, qui joue pas son meilleur football en ce moment, puis que en effet, ils sont même pas capables de donner une game à Dallas, ils iront pas loin en playoff.
Ben, j'ai pas de boule de cristal, mais ce que je vois, moi, c'est que les Lions, ils gagnent peut-être un match en série. Là. T'sais, ils sont pas assez équipés défensivement pour l'instant. Ça va se travailler là, dans les prochaines années. Ils ont très, très bien repêché. Mais ça reste une équipe très jeune. Beaucoup de partants qui sont des joueurs de première, deuxième année en ce moment. Je pense que ça va paraître en série. Ça veut pas dire qu'ils sont pas sur une pente ascendante, là, mais je les vois pas veiller tard, non.
Okay. Moi aussi, je vais prendre Dallas. Je pense qu'ils ont quand même joué même un bon match là, contre les Dolphins. Ça n'a pas été un blowout. Là. Et on s'entend que c'est juste des petits jeux qui ont changé le match. Très bonne défensive red zone. Je vais prendre les Cowboys pour remporter le match.
Là, tu t'en vas-tu sur le match?
Je vais aller sur le match. Le match de 13h.
Yes.
Écoute, je vais te surprendre. Les Dolphins matchent vraiment bien contre les Ravens. Je dis pas que en playoff, les Ravens battraient pas les Dolphins. Je pense que là, les Ravens sont en confiance. Ils sont sûrs de faire les playoffs. Ils vont lever un peu le pied sur le gaz. Mmh, je sais pas si Carl Hamilton va revenir. Mais il reste que la façon dont on attaque les zones profondes. Écoute, on est Tua et 2 victoires, aucune défaite contre les Ravens. Il fait beaucoup de points. Il n'y a pas d'interception. Moi, je pense que les Dolphins vont causer une surprise en fin de semaine. Je pense qu'ils vont battre les Ravens. Ils sont capables de contenir les carrières en plus qui courent. Je pense pas que Lamar Jackson va courir 75 verges contre les Dolphins en fin de semaine. C'est un gros changement, ça, d'ailleurs, pour la défensive des Dolphins, d'être capable de contenir un corps arrière qui court. Fait que, à moins que Lamar Jackson ait un passer rating de 115 en fin de semaine, ce qui est rarement son cas, là, victoire des Dolphins, et on va avoir jusqu'à la dernière semaine pour déterminer qui sera le champion de la conférence.
Wow, ouais, ça serait très bon. Puis, mais tu me surprends.
Pas à ça, hein?
Je suis renversé, en fait. Je suis quasiment déstabilisé.
Oui,
c'est ça le bon mot.
Tu veux qu'on arrête et puis que t'ailles boire de l'eau puis qu'on reparte?
J'en ai de l'eau. Attends un peu.
Vas-y. Bois-en. Non, je te le dis, là. Moi, je pense que les Dolphins, ils jouent du football propre. Toi, pas de lance, pas eu de revirement depuis 4 semaines. C'est sûr que l'absence de Waddle va peut-être se faire sentir, mais on est capable d'attaquer des zones profondes avec d'autres joueurs. Tyreek Hill, s'il joue, puis il a bien joué quand même contre Dallas. Je vois pas pourquoi il jouerait pas au même niveau contre les Ravens. On joue au sol, les Ravens sont attaquables aussi. Fait que, bref, je suis assez confiant en fin de semaine. C'est sûr que j'aimerais mieux que le match soit à domicile, mais même à ça, j'ai l'impression que les Ravens sont tellement assurés d'avoir une bonne place en série, puis qu'on là, ils reçoivent toutes les fleurs du monde. Short week, Lamar Jackson, MVP, tout le monde, si tout le monde en parle comme si c'était les rois de la montagne. Dans ce temps-là, d'après ta préparation est moins réussie. Je vais y aller du côté des Dolphins cette fois-ci.
T'as des bons arguments, honnêtement, tu m'épates, parce que je t'ai tellement entendu trouver toutes les façons de dire qu'il allait perdre que tu me convaincs presque. J'ai quasiment le goût de changer d'idée, mais je vais rester avec mon choix des Ravens. Par le fait que c'est à Baltimore, par le fait que c'est une équipe très physique, j'ai l'impression qu'ils peuvent brasser un peu Miami. Puis c'est la ligne à l'attaque des Dolphins par rapport au front défensif des Ravens qui me fait peur dans ce match-là. Je trouve que le mismatch, là, il est quand même important.
Oui, mais c'est un mismatch aussi contre Dallas, puis il n'y a rien qui est arrivé de ça.
Effectivement, mais je pense que Dallas, on a surtout cette pensée-là à cause de Micah Parsons.
Mais Lawrence aussi, tu sais.
Oui.
Ils en ont du trouble dans la ligne défensive, puis on l'a contenu, puis on avait quatre gars qui n'étaient pas partants, puis on va retrouver des partants sur la ligne.
C'est fort possible. Écoute, c'est un match, là, c'est un pile ou face, c'est deux excellentes équipes.
Exact, t'as raison, parce que les favoris, c'est les Ravens par 3 à domicile.
Pis c'est ça. Puis je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'équipe qui va perdre, là, à part si c'est une rince, là, c'est pas gênant. C'est pas la fin de ta saison, c'est pas la fin de ta route. C'est deux excellentes équipes. Il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Mais je vais y aller avec les Ravens pour la pression qu'ils vont appliquer de l'intérieur aussi. Là, j'aime beaucoup le jeu de leur plaqueur défensif. Ça va faire la différence, mais je te dis, là, le fameux facteur que tu évoques, je sais que c'est pas tangible, c'est pas quantifiable, c'est pas des stats, c'est pas démontrable, mais le fameux le fait que t'es qualifié, que ça va bien, que tout le monde te lance des fleurs, que tu lèves un peu le pied de l'accélérateur, je crois beaucoup dans ça, le fait que je suis loin de ridiculiser ta prédiction.
Puis pour finir, ça reste que les receveurs des Ravens, Zay Flower, OBJ, ça va, là, mais contre Jalen Ramsey puis Xavier Howard, puis si Javon Holland revient, ils n'auront pas beaucoup de ballons. Avec, je sais pas avec qui ils peuvent nous battre à l'attaque. Gus Edwards, peut-être.
C'est mais sûr on que pas le jeu au sol, le jeu au sol, là, tu le vois sans Keaton Mitchell, il manque un élément il dynamique. Là. Ça manque. Honnêtement, ça leur fait mal, moi, c'est que la façon qu'ils ont manger les Niners, je sais pas.
Ouais, ça fait
j'ai de la misère une semaine après à parier contre, mais écoute, ça va être un excellent match. On va peut-être moins longtemps s'attarder sur les autres, mais je pense ces deux-là, là, Détroit, Dallas, puis Miami, Baltimore, c'est quand même des matchs très, très importants en fin de semaine.
Les Bills favoris par 12 à domicile contre les Pats, est-ce que tu vois les Pats faire un back-to-back puis battre deux équipes de la même division pour mêler les cartes?
Non, mais 12, je trouve ça quand même pas mal, considérant aussi que les Pats ont gagné le premier duel cette année. D'accord, c'est un bout où les Bills étaient pas 100% rodés, comme ils semblent être en ce moment. Mais c'est le seul point qui me fait peur. Je pense que les Bills vont gagner, mais l'écart de 12 me semble assez audacieux. Surtout que 10 des 14 matchs des Bills, des 15 matchs des Bills jusqu'à maintenant, il y en a 10. Qui ont été là par une possession. Fait que, tu sais, c'est pas une équipe jusqu'à maintenant qui massacre beaucoup là ses adversaires. C'est ça, ça va être ça là ma prédiction.
Non, les Pats qui viennent de battre une équipe dans la conférence pour mêler les cartes, je disais parce que les Broncos là, c'est une défaite qui fait mal.
Hey, maison.
Puis les Pats ont l'air d'être partis pour mêler les cartes là, mais pas cette fois-ci. Je pense que les Bills vont remporter moi aussi le match. Les Falcons, j'ai-tu rêvé ou les Falcons sont encore au plus fort de la course pour être dans les séries?
Ben, la division sud de la NFC, tu sais ce que c'est à chaque année, là, c'est un peu un petit tapon de n'importe quoi. Là, là t'as les Bucks qui jouent de façon plus convaincante dernièrement, là, on va leur donner. Mais les Falcons, les Saints suivent tout près. Ça peut encore virer bout pour bout dans les deux dernières semaines. C'est loin d'être gagné pour les Bucks.
Bon, mais Atlanta a l'air de jouer un peu sa vie. Je suis game d'y prendre en fin de semaine, même s'ils sont négligés par 3 points à Chicago.
Ouais, je fais pareil comme toi là-dessus. Le facteur on lutte pour notre survie va être important. L'attaque qui a bien paru contre les Colts. Écoute, les Bears jouent quand même bien là, dernièrement. Je pense que ça fait quoi, ils ont 4 victoires en 6 matchs, quelque chose comme ça. Donc, ils sont à considérer. Mais au total tout, la défense des Falcons va faire la différence avec des revirements.
Houston, sans ou avec CJ Stroud, on ne sait pas encore à ce moment-ci,
oui,
on enregistre mardi soir. Ça va être la clause journal dans ton cas ou c'est Houston avec ou sans CJ Stroud?
Non, je vais me donner une marge de manœuvre. Là, comme tu dis, au moment de l'enregistrement, il y a quand même beaucoup d'eau là, qui reste à couler sous les ponts. Puis CJ Stroud, on le sait pas au moment où on se parle. Il y a aucun indice qui est sorti d'un côté comme de l'autre. Puis tu sais, l'attaque des Texans sans lui, là, c'est complètement autre chose. Là. Tu parles de 9,5 points par match dans les deux dernières parties avec Case Keenum. Si Stroud n'est pas là, est-ce qu'on est mieux de ramener Davis Mills plutôt que Case Keenum? Tu sais, il y a plein de questions là, dans l'entourage des Texans. Puis si CJ Stroud est là, pour moi, c'est un facteur qui élève vraiment l'équipe au-dessus des Titans, surtout qu'on sait pas si Will Levis va revenir. Tu sais, il y a trop d'incertitudes au moment où on se parle, mais écoute, j'y vais avec les Texans sous toute réserve.
Moi aussi, même chose que toi pour les Texans, je vais prendre si CJ Stroud est là. On s'en va à Indianapolis. Écoute, les Raiders. Let's go, Raiders. Raiders. Hey, c'est tellement le fun de les voir gagner en fin de semaine. Je leur dis bravo, puis je leur dis vous allez en gagner une autre en fin de semaine. 5-3 pour le coach à part intérim, Antonio Pierce. Puis ils vont battre les Colts à Indianapolis.
Ils jouent beaucoup mieux depuis que Pierce est là. C'est clair là, que je pense que l'ambiance doit être un peu plus légère dans le vestiaire. Mais écoute, je vais les prendre aussi, mais va falloir que l'attaque se bouge un peu. Ça pourra pas toujours être Zamir White qui fait 145 verges.
Non.
Belle surprise d'ailleurs, tu sais, le porteur de deuxième année. Mais écoute, ils n'ont pas complété une seule passe après le premier quart. Ils ont gagné. Faut le faire, là. C'est quand même
c'est
rare.
C'est ça, c'est pas parce qu'il pleuvait à verse. C'est pas parce qu'il y avait une tempête de neige.
Ils ont tout simplement pas complété de passe après le premier quart. Ça n'a pas fonctionné. Eden O'Connell qui avait très bien commencé, puis après, ça a été une catastrophe. Ça a fonctionné, bravo, mais va falloir faire plus. Je pense qu'ils sont capables de plus. Moi, je leur donne la victoire dans ce match-là. La défense qui joue quand même très bien là dans les dernières semaines.
Les Jags, eux, sont 4 défaites en ligne.
Boy. La chute libre.
Ils reçoivent les Panthers et pour une millième fois depuis... écoute, chaque semaine, je pense que je regarde mes nouvelles de la NFL et ça dit Trevor Lawrence, questionable, nouvelle blessure quelque part.
Ah oui.
Là, c'est l'épaule.
Ben, c'est ça, il y a eu la cheville, il y a eu une commotion, puis là, il s'est blessé à l'épaule. Puis là, ils disent, ah, la blessure à l'épaule, c'est pas si grave, OK? Mais ça commence à faire des bobos. Tu sais, je te dis, là, si c'était pas les Panthers, n'importe quelle autre équipe, je prenais l'autre équipe. Le fait que c'est les Panthers m'influence beaucoup. Tu vas me dire, ah, ils ont quand même bien joué contre les Packers. Oui. Mais écoute, je suis juste pas capable de miser sur eux actuellement. Le fait que ça va être le retour à la victoire pour les Jaguars. Mais oh boy, que c'est pas convaincant. Tu sais, la division est même plus assurée pour eux alors qu'ils s'en allaient tout seuls en tête, là. Il était 8-3 il y a un mois. Là, c'est rendu loin d'être sûr qu'ils gagnent la division. Ils ont d'affaires à se réveiller puis vite.
Ils sont favoris par 6,5 points. Moi aussi, je vais prendre les Jags. Maintenant, quelle équipe! C'est tellement le fun d'y voir jouer les Rams contre les Giants à New York. Les Rams qui traversent le pays, mais sont quand même favoris par 6,5 contre une équipe qui a donné du fil à retordre, veut pas, aux Eagles en fin de semaine. Les faces était longue à Philadelphie pendant le match.
Ouais.
Je vais prendre les Rams.
Ouais, ben là, écoute, surtout que les Giants, on sait plus trop où ça s'en va. Est-ce qu'ils ramènent Tommy DeVito? Là, Tyrod Taylor, bon, il a quand même mieux paru que DeVito face aux Eagles. Mais si t'es une franchise qui pense à son avenir, je te dis pas que DeVito est le corps d'avenir des Giants, mais écoute, Tyrod Taylor, il restera pas, il a pas un contrat à long terme. D'après moi, l'an prochain, là, ça fera pas, il sera peut-être même plus là. Tu veux évaluer DeVito, y donner le plus de temps de jeu possible pour voir est-ce que t'as du matériel à réserviste en lui, au moins, là. C'est le genre de truc que les équipes éliminées, là, doivent évaluer à la fin de la saison. Je sais que c'est pas très sexy de dire ça, mais c'est la réalité. Est-ce que ça va être ça leur choix ou ils vont dire ah non, nous autres, on veut gagner puis satisfaire un peu les vétérans, leur donner le sourire? Ça reste à voir, mais peu importe qui va jouer, les Rams en ce moment sont très excitants. 7 victoires en 8 matchs. Kyren Williams qui prend le contrôle là, carrément de l'attaque, c'est beau à voir. Ça enlève rien à Matthew Stafford, Cooper Kupp puis Puka Nacua, mais Kyren Williams est rendu vraiment un joueur important là, pour les Rams. Ça va être le cas encore contre les Giants.
Les Cards s'en vont à Philadelphie affronter les Eagles. Est-ce que ça vaut la peine de parler de ce match-là?
Non, ils sont vraiment pas chanceux. Ils ont pigé le mauvais pion, le mauvais... je sais pas quoi. Ils sont tombés sur le mauvais gratteux. Là. Ils s'en vont jouer à Philadelphie. Ils sont frustrés. Tu l'as dit. Là, les faces étaient longues. Ils cherchent à l'attaque. Jalen Hurts, qui est méconnaissable par rapport à l'an passé du côté aérien. Il y a beaucoup de touches au sol. Là. Fait que là, les gens qui sont dans des fantaisies se disent « Ah, il est aussi bon. Il est très payant, Jalen Hurts. » Oui, mais du fantasy, c'est pas toujours la réalité. Là. Je veux dire, Jalen Hurts, c'est pas mal moins dominant que l'an passé. Je pense que là, il va avoir de la hargne. Les Eagles vont sortir un gros match, j'ai l'impression.
Moi aussi, victoire des Eagles qui sont favoris par 9.5, donc à domicile. Tampa Bay, les Saints, ça c'est un bon match. Ça c'est un match que je vais suivre en fin de semaine. Les Bucs qui sont favoris par 3 points pour l'emporter contre les Saints qui trouvent tous les moyens possibles pour gagner.
Ben, et puis de perdre aussi, c'est ça le problème, on le sait jamais avec eux autres, oui. C'est vraiment un club que j'arrive pas à saisir cette année. Une semaine, Derek Carr a l'air en symbiose avec ses receveurs, puis l'autre semaine d'après, pas capable de viser personne, puis ça s'engueule, puis tu sais, c'est pas toujours chic, le Nouvelle-Orléans cette année. Moi, je vais y aller avec les Bucs, tu sais, ils jouent bien dernièrement, Mike Evans, Baker Mayfield sont en feu, la défense ont des jeunes joueurs qui commencent à s'illustrer. Tu sais, je suis pas totalement en confiance parce que les Bucs, ça reste un club, je pense, qui a ses lacunes, là, en défense notamment. Mais écoute, les Saints sont un peu trop éparpillés. On sait jamais quel genre de match ils vont nous sortir. Je suis juste pas à l'aise de miser dans un match important sur un club qui est pas égal d'une semaine à l'autre.
Moi, je vais y aller aussi avec les Bucs. Evans est vraiment sur un nuage en ce moment. Ouais. Puis je vois pas qui peut le garder en Nouvelle-Orléans. On va espérer un autre match de 100 quelques verges, un touché, puis ça va être suffisant pour les Bucs et pour ceux qui l'ont dans leur fantasy en finale en plus cette semaine. C'est pas mon cas, mais bon. On va en parler peut-être un peu tantôt quand on va avoir des questions là-dessus. Maintenant, les 49ers qui s'en vont jouer un match contre les Commanders à Washington.
Ah oui.
Ça fait du bien, ça, d'affronter Washington quand tu sors d'un match
difficile. Ça change le mal de place.
Brock Purdy qui était... Là, aujourd'hui, c'est pas clair. Là. Ils l'ont laissé sur le banc parce que ils ont dit « Ah, t'es blessé », mais aussi peut-être que t'avais pas un gros match. Fait que s'ils l'ont pas remis sur le banc après sa blessure, mais il était capable de retourner au jeu, c'est l'équivalent de bencher un corps arrière.
C'est l'équivalent, mais écoute, c'est déjà arrivé à d'autres, là. C'est un mauvais match.
Oui, la semaine passée, là, le gros ostinage qu'il y avait sur la planète NFL, c'était qui est le joueur par excellence de la Ligue? Ouais. C'est-tu Brock Purdy ou c'est McCaffrey? Là, ton MVP vite, hein? Se fait bencher. Là.
Ça change vite une semaine, des fois, les perceptions, mais écoute. Ça va bien aller, là. Ils s'en vont à Washington. C'est la pire défense de la ligue. Ils ont leurs problèmes, Washington aussi. Tu vois, Sam Howell, ça fait 2 semaines de suite qu'il se retrouve sur le banc. Là, est-ce que tu y vas avec Jacoby Brissett qui te donne clairement une meilleure chance de gagner, mais ça va te donner quoi au final? Ou t'évalues le jeune jusqu'à la toute fin pour dire on lui a donné vraiment une saison? Ça, c'est leur décision, mais je vois pas comment les Niners peuvent échapper ce match-là. Écoute, puis je pense que non, pour leur confiance avant les séries, il faut non seulement qu'ils gagnent, mais il faut qu'ils soient très convaincants comme ils l'étaient dans les dernières semaines. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver.
Ils sont favoris par 13.5. Je les prends moi aussi pour remporter le match à Washington. Washington est incapable de mettre de la pression sur le corps, donc ça va aider Brock Purdy à bien se remettre. Là, les Steelers. Eux, ça, tu parlais des Saints qu'on ne sait jamais, mais les Steelers non plus, on ne sait jamais.
Exact.
Est-ce qu'ils vont sortir un lapin de leur chapeau à Seattle pour rester dans la course aux séries? Moi, je pense que oui, puis j'ai mes gagnants contre les Seahawks.
C'est audacieux, bravo. Écoute, les Seahawks, ils ont quelque chose en ce moment, là, mais il va falloir qu'ils commencent les matchs à l'heure, parce que là, ça fait deux semaines de suite qu'ils gagnent dans la dernière minute du jeu avec une passe de toucher. Là. Une semaine, c'était Drew Lock, là, c'était Geno Smith. C'est spectaculaire, c'est le fun, c'est beau à voir, mais c'est pas une recette gagnante à long terme. À un moment donné, il faut que tu produises dès le début. Les Steelers, qui ont été, ça a été un de leurs meilleurs matchs offensifs cette année, sinon leur meilleur, avec Mason Rudolph. Tu sais, si je t'avais dit ça en début d'année, là, t'aurais
il sort-tu encore avec Eugénie Bouchard, lui?
Je sais pas. Je me suis posé la question. Je suis pas très bon, mais pas
la question.
Faudrait qu'on nous renseigne là-dessus. Là.
Ouais.
Mais
c'est peut-être parce que justement, il sort plus avec, puis il a retrouvé son mojo, là.
T'as l'air à donner beaucoup d'impact, toi,
aux
demoiselles là, dans la performance des équipes.
Mais c'est sûr que Rudolph aussi, pour un match dans le temps des fêtes, c'est bon aussi.
Ben oui, Ron Rudolph, écoute. Non, mais il a vraiment bien joué. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que Mike Tomlin disait après le match, tu sais, c'est le Mason qu'on connaît, moi je suis pas surpris, il a toujours été très agressif. Alors que son surnom, lui, à ses premières années, c'était Captain Checkdown. Fait que très agressif, j'en prends et j'en laisse, si tu me permets. Cela dit, écoute, comment qu'il peut jouer? Est-ce que Kenny Pickett va être prêt à revenir au jeu? Là, on le sait pas. Encore là, il y a de l'incertitude. Mais de la façon qu'ils ont joué les Steelers avec Rudolph, moi, j'aurais l'impression qu'ils vont dire, écoute, je pense que Kenny, tu serais mieux de récupérer une autre semaine.
Ben oui.
On verra la semaine prochaine. Mais les Seahawks, de toute façon, je pense qu'ils vont être prêts à ce match-là.
Mais je dis ben oui, tu sais. Tu dis tout ça à ton corps arrière numéro un, ton corps d'avenir.
Non, mais je comprends.
S'il est prêt à jouer.
On blague un peu, mais en ce moment, est-ce que tu aurais pleine confiance en Kenny Pickett? Tu sais, je veux dire, tu viens de connaître ton meilleur match offensif. C'est là qu'il y a eu enfin le réveil de George Pickens. Il y a eu quoi, 195 verges, deux touchés, je pense.
Oh, mais c'est sûr que Rudolph, lui, a lancé en mode fuck it, là, tu sais, là.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux qu'il perde? Il y a un contre un dans le pit sur le bord de la ligne, j'y garoche, puis on verra bien.
Il n'y avait rien à perdre, fait que c'est peut-être là qu'il est à son meilleur.
C'est pas ce qu'on est habitué de voir des carrières des Steelers.
Mais je pense pas que c'est un modèle à long terme, là. Tu sais, je pense pas que soudainement Mason Rudolph a vécu.
Il va devenir une espèce de Brett Favre.
Non, tu sais, on va se calmer, là, mais non, c'est ça. Non, je favorise les Seahawks.
Pour ta gouverne, sache qu'il y a eu rupture entre Eugénie Bouchard et Mason Rudolph en 2022, en mars 2022.
Hey, on est donc même pas à jour. Hein?
Mars, en tout cas, ouais. Mais ils sont plus ensemble depuis mars 2022.
Dommage.
Écoute, je voulais pas t'apprendre ça comme ça. Tu sais, je sais que c'est un peu une nouvelle qui est dure à encaisser. Là, mais...
Ah oui, ça me préoccupe. T'as pas idée, là.
Fait que je sais pas si tu vas être capable de continuer l'émission malgré
on va essayer.
Tout, mais
si on va essayer.
Ça marche. C'est pour ça qu'on est deux, on peut se soutenir.
Et voilà.
Parlant de soutien, écoute, si moi, je comme partisan des Dolphins, j'ai eu des moments très difficiles. Je sais que les gens qui prennent pour les Browns ont eu des années très difficiles. Les Cowboys, écoute. Nommez-en les Bills, ils ont eu des saisons où ils ont déchiré le cœur de leurs partisans. Mais cette année, là, les Broncos, ce qu'ils font à leurs partisans, c'est dur, c'est top.
Ils jouent aux montagnes russes avec leur cœur, disons. C'est pas
après,
facile.
Après avoir eu un début de saison terrible, dans ce temps-là, les partisans disent « Bon, pas de problème, on a une saison de merde, On va regarder c'est qui est bon dans NCAA. On va regarder les choix repêchables. Mais là, t'en gagnes 5 sur 6. Oups, hey, ouais. On est dans la course. Puis, au moment où que tu devrais gagner un match qui est une formalité, tu perds, puis tu te sors de la course, ou presque. C'est vraiment terrible, la défaite qu'ils ont eue contre les Pats la semaine passée. Écoute, je les vois rebondir, par exemple, en fin de semaine contre les Chargers, victoire des Broncos dans mon cas.
Quand on parle de montagne russe, là, ils en avaient gagné 5 en ligne, puis là, ils viennent d'en perdre 3 sur 4. Au moment où on se disait, ouais, les Broncos, c'est sérieux. Moi, j'avais l'air d'un foutu génie parce que j'avais dit avant saison qu'ils feraient les playoffs. Là, il avait commencé 1 et 5, fait que je faisais rire de moi. Là, hop, il était revenu, puis c'est n'importe quoi, il joue avec notre cœur. Mais comme tu dis, tu sais, les Chargers, bon, ça reste une équipe en ce moment. Ils ont mieux joué contre les Bills malgré la défaite samedi passé. Mais j'ai pas beaucoup confiance en une attaque menée par Easton Stick. Fait que je prends les Broncos.
Puis les Broncos, si ma mémoire est bonne, même s'ils gagnent le match contre les Chargers et leur dernier match de la saison, ça va être contre les Raiders, je pense que ça va être très difficile de faire les séries. Ils n'ont pas beaucoup de tie-break, là, malheureusement. Puis on en reparlera tantôt, mais je pense que les Raiders, eux, s'ils gagnent leurs deux derniers matchs et les Chiefs perdent leurs deux derniers, sont champions de division. D'ailleurs, les Chiefs reçoivent Bengals.
Ouais, c'est ça, les Chiefs. Imagine ça quand ils ont fait la cédule. Chiefs-Bengals, semaine 17. C'était du bonbon, normalement. Là, on est privé de ça parce que c'est pas du tout les mêmes Bengals qui s'en vont à Kansas City. On le sait à quel point les Chiefs avaient de la misère contre les Bengals dans les dernières années aussi. Là, tu sais, c'était une de leurs bêtes noires. Je te dis pas qu'il peut pas arriver quelque chose. Là, tu sais, Jake Browning a connu un moins bon match la semaine passée, mais il jouait très bien avant ça. Puis les Chiefs sont un peu perdus en ce moment. Mais écoute, non, je peux pas me convaincre. J'aurais le goût de dire Bengals parce que c'est possible, honnêtement, la façon que les Chiefs jouent en ce moment, mais non, je reste avec les Chiefs. Je pense qu'ils échapperont pas ce match.
La cote te fait peur. Elle est de 7.5 pour les Chiefs. Ils sont à domicile, mais moi, je pense qu'ils vont perdre un deuxième match à Arrowhead.
Oh.
Et j'y vais, moi, avec les Bengals. Les Bengals vont rebondir. C'est plate, par exemple, que Chase soit pas là. Je suis encore plus confiant. Mais je pense que les Bengals vont être capables. Si, puis T. Higgins, il faudrait qu'il step up un peu. Là.
Il avait fait des gros jeux, pas en fin de semaine, mais la semaine d'avant contre les Vikings, il avait été quand même assez spécial.
Mais en fin de semaine, il a pas été bon. Là, fait que j'aimerais ça qu'il retrouve son mojo. Et je pense que ce qui va arriver, victoire des Bengals en fin de semaine à Kansas City. Là, on arrive au match de la fin de semaine. En tout cas, peut-être pas le match de la fin de semaine, mais quand même encore des implications. Les Packers contre les Vikings. Les Vikings à domicile, favoris par 2. C'est le football du dimanche soir. Un régal à Minnesota. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans ce match-là?
Pour célébrer le nouvel an, en plus, là, on va être proche de minuit quand ça va se finir. C'est quand même pas de le fun là. Écoute, là, c'est tellement embêtant. Kevin O'Connell qui a dit en début de semaine qu'il savait même pas lui-même qui allait être son partant. C'est pas qu'il veut jouer à cachette, là. Pour l'instant, il hésite entre Nick Mullins, qui a lancé 1000 interceptions en 2 matchs, Josh Dobbs, qui était plus capable de faire avancer l'attaque, et Jaren Hall. Est-ce que tu ramènes la recrue, toi, si t'es lui? On l'a aperçu, là, cette saison. Il a joué une série, à peu près. Puis ça allait bien, mais ils s'étaient fait knocker, il y avait eu une commotion.
Rappelle-nous, c'est quoi les scénarios en ce moment pour les Vikings pour qu'ils se retrouvent en séries éliminatoires?
Ben, ça va prendre quand même pas mal d'aide, là, parce que t'as les Seahawks qui sont en avant, t'as les Rams qui sont en avant.
Les Rams sont déjà en série. Là.
Ben, ils sont déjà en série, oui, au moment où on se parle, mais c'est pas fait. Mais tu sais, tu regardes les Vikings, je sais que les probabilités, faut en prendre et en laisser, là, mais le New York Times a un modèle qui dit qu'ils ont 28% des chances là, de faire les séries. Fait que tu sais.
Donc, si t'as le tiers des chances ou à peu près de faire les séries, tu y vas pas avec la recrue. Là. tu y vas.
Pas, moi non plus.
Tu perds avec ton vétéran ou tu gagnes avec ton vétéran ou en tout cas ou un joueur qui a un peu plus d'expérience parce que.
Celui qui fait clairement le plus progresser l'attaque, c'est bête à dire, mais c'est Nick Mullins.
C'est sûr.
Ça bouge, c'est plus explosif, il y a des longs jeux, il se passe quelque chose, mais c'est les revirements. Il est extrêmement dangereux, là, ce gars-là. Écoute. Beaucoup de ses passes sont des aventures. Tu sais pas dans quelle main ça va aboutir. Là. Puis tu retiens.
Même ces dérobades.
Non, effectivement. Mais il fait progresser l'attaque. Est-ce qu'il est capable de limiter ça? Est-ce qu'on peut le coacher? T'sais, ça va être dur. Là. Nick Mullins reste Nick Mullins. Mais ce match-là, c'est au Minnesota. Il y a un sentiment de désespoir. Tu vas me dire que pour les Packers aussi. Mais la défense des Packers est très, 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 très dans le pétrin là, ces temps-ci. T'sais, même les Panthers ont joué clairement leur meilleur match offensif de l'année contre eux dimanche. Ils ont marqué 30 points. J'ai vraiment pas confiance en cette défense-là dans le moment. Ce qui fait peur du côté de l'attaque des Vikings, par contre, faut le préciser, TJ Hawkinson fini pour l'année. Ça, c'est une lourde perte parce qu'en plus...
C'est une lourde perte pour mon fantasy aussi qui sont dans ma finale que je vais jouer en fin de semaine.
J'imagine, mais dans la vraie vie, c'est encore pire parce que TJ Hawkinson, non seulement il connaissait une très bonne saison, c'est la valve de sécurité par excellence, mais là, on parle d'une déchirure du ligament croisé antérieur. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances à ce stade de la saison.
C'est même pas proche à week 1. C'est même pas proche à semaine 1.
Il va peut-être commencer la saison sur la pop list, là, la liste des blessés. Là, ça, c'est du long terme. Mais pour l'instant, c'est quand même un trou béant, je trouve, au milieu du terrain. J'y vais avec les Vikings parce que j'ai le goût de triper au jour de l'an puis de me dire que au moins, ils perdent, mais j'ai ma prédiction. Là. Non. T'sais, là, c'est le cœur et la tête avec les Vikings. Mais honnêtement, cette perte-là me fait très, très peur. Puis, on sait pas non plus. Est-ce que Jordan Addison va jouer? Il s'est blessé à la cheville et au jour le jour, au moment où on enregistre. On le sait pas. Mais ça pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les épaules de Justin Jefferson, qui est capable d'en prendre.
Je vais prendre les Packers, moi.
Bon.
Je sais, je suis plate, là, mais les Vikings... C'est beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Même si les Packers ont des blessés, il y en a moins d'incertitudes du côté des Packers. Eux aussi doivent gagner ce match-là. Victoire des Packers. Désolé. J'essaie d'être solidaire des fois, mais cette fois-ci, je peux pas. OK, Steph, merci. On va faire une pause et après la pause, on va rejoindre notre public en délire avec les questions. Bougez pas.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Question du public.
On est de retour à la zone payante avec les questions du public. Encore beaucoup de questions cette semaine. On va essayer d'en prendre le plus possible. D'abord, on va commencer avec notre statisticien officiel, Thomas de Bordeaux. Oui, Thomas, ça fait plaisir de te retrouver encore cette semaine. Thomas qui fait bonne figure, là, il commence à nous écœurer un peu avec ses résultats à lui. 12
oui,
en 16.
Il est meilleur que nous autres. Bravo.
On a eu 2, 10 en 10 cette semaine. 10 en 16, pardon. Pour la semaine 16 de la NFL. On est dans la semaine 17 cette semaine. Thomas a toujours le droit à une question. Avec l'équipe des Titans ce dimanche, Derrick Henry a lancé une deuxième passe de toucher pour cette saison et sa quatrième passe en carrière. Quel autre joueur ne jouant pas la position de QB ont des statistiques de passe aussi étonnantes?
Eh bien ça, écoute, ça m'a donné l'occasion d'aller replonger parce que je, dans ce temps-là, j'étais trop jeune pour écouter le foot, mais je me rappelle d'avoir vu beaucoup de vidéos sur la carrière légendaire de Walter Payton. Puis on le voyait souvent faire des passes, puis je me disais, voyons, il me semble que je l'ai déjà vu dans des documentaires NFL Films, tenter beaucoup de passes, puis je suis allé vérifier, puis effectivement, c'est lui qui a le record. 8 passes de toucher pour le légendaire Walter Payton, 331 verges de gain, hein, c'est quand même impressionnant. Fait que c'est ça, c'est pas le roi Henry, oui, mais là, dans ce cas-ci, c'est le roi Walter.
Danny Vellieux nous pose la question. Jérémy Saint-Hilaire a signé comme carrière à Vanderbilt. Pour lui, c'est mieux d'aller comme réserviste à Vanderbilt ou de rester au Québec et d'être possiblement partant pour le Rouge et Or et les Carabins?
Écoute, c'est dur à savoir, mais il y avait une chose qui était sûre dans le cas de Jérémy Saint-Hilaire, c'est que c'est un gars qui a joué son football préparatoire aux États-Unis. Ça fait 2 ans maintenant qu'il est au Tennessee. Tu sais, c'était clair qu'il avait opté d'avance pour la voie de la NCAA. Là, je pense pas qu'il allait revenir au Québec. Puis, écoute, là, on se dit, ah, il va être réserviste à Vanderbilt. Ouais, peut-être au début, c'est normal, mais c'est un programme où il y a vraiment une chance à un moment donné de devenir partant. Puis de voir du terrain à tout le moins, parce que Vanderbilt, on se fera pas de cachette, c'est pas un gros programme. Depuis 10 ans, ils ont pas de saison gagnante. Ils se cherchent beaucoup. Fait que, tu sais, je pense qu'il va avoir une vraie shot là-bas. Puis, écoute, ce qui est bien dans un cas comme ça, c'est que tu as toujours l'option de transférer dans le pire des cas. Il pourra toujours se trouver une place ailleurs, revenir au Canada. Toutes les options demeurent sur la table. C'est moins comme avant où tu t'enrôlais dans un programme puis tu restais là pendant 5 ans, là. Mais Jérémy Saint-Hilaire, je pense qu'à Vanderbilt, là, il va éventuellement avoir une opportunité de jouer, pas cette année, mais je le vois peut-être l'an prochain ou à sa 3e saison, là, comme on voit la plupart du temps.
D'ailleurs, une autre question sur les joueurs québécois. Luc qui nous pose la question, le joueur québécois qui va intégrer le prestigieux programme universitaire d'Alabama, Stéphane mentionne à la fin de son article que ce jeune joueur doit faire ses preuves pour intégrer l'équipe partante. Pourquoi ne pas plutôt se joindre à une université un peu moins prestigieuse et être certain d'être inséré à l'équipe régulière? Le but n'est-il pas avant tout la visibilité afin d'accumuler des stats et de prouver sa valeur pour poursuivre dans la NFL?
Merci, Luc, pour la question. Luc Mamaro, c'est un dilemme, ça, pour ben des joueurs, là, tu sais, surtout ici, là. Est-ce que tu veux devenir partant rapidement dans un petit programme ou apprendre dans un des programmes les plus prestigieux, sinon le plus prestigieux, là? Tu sais, on peut débattre, là, sur qu'est-ce qui est le plus prestigieux dans NCAA, mais Alabama, ça fait beaucoup de sens. Il faut se rappeler qu'il a choisi l'occasion d'être formé par un grand coach aussi. Là, Nick Saban, t'as pas souvent cette chance-là, surtout chez nous. Ça montre aux jeunes ici aussi que c'est possible, tu sais, que tu peux briser des barrières, que tu finiras pas toujours dans un tout petit programme. Tu peux te faire remarquer. Puis comme je le disais dans le cas de Jérémy Saint-Hilaire, c'est vraiment une grosse semaine pour le football québécois. Juste mentionner en passant qu'on a aussi Maxence Leblanc, allié rapproché, qui s'est enrôlé pour Ohio State. Ça, c'est pas rien non plus. On parle pas d'un petit programme encore là, mais pour en revenir à Steve Bolo Mboumoi, si ça fonctionnait pas à Alabama, qu'il voit pas le bout du terrain au bout de 2-3 ans, ben il y a toujours moyen d'aller dans le transfer portal. C'est plus comme avant où tu devais céder une année d'admissibilité. Tu sais, tu peux maintenant jouer tout de suite quelques mois plus tard dans un nouveau programme. Donc, c'est pas un problème comme tel. Moi, je suis content qu'il essaie cette avenue-là. Tu sais, puis j'imagine, là, il a visité toutes les installations, toutes les équipes, tous les entraîneurs.
Parce qu'il y avait le choix entre 2 autres universités, en plus.
Hey, pas 2. Il y a eu 17 offres de bourses d'études. Puis à la fin, lui, il a arrêté son choix entre Alabama, Mississippi State puis Florida. Fait que tu sais, c'est un gars là qui avait vraiment
c'est quand même
en bas
pas
du
des,
choix.
C'est ça, parce que tu sais, moi je suis pas sa carrière de proche comme toi puis comme certains de nos auditeurs, mais je me dis s'il y a eu à la fin Florida puis Mississippi State puis qu'il y a eu en plein d'autres équipes qui l'ont approché au point où il y avait l'embarras du choix. C'est-tu moi ou il sera peut-être pas partant, mais on lui a quand même dit tu vas avoir la chance de voir du terrain, tu sais.
Ben oui, c'est sûr et certain.
Je sais pas comment ça marche, là, mais comment qu'on se parle quand on est coach puis joueur que tu veux recruter, là, mais il doit avoir un bout, il est confiant qu'il va voir du terrain, là.
Il est confiant, c'est sûr. Il a senti une bonne relation avec l'entraîneur de la ligne défensive. Après, ben, t'as pas de promesse parce qu'à chaque année, Alabama recrute très, 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 très fort. Fait que eux autres, ils se retiendront pas. Ah, ben là, lui, on lui avait ici ou ça. Tu sais, ça va dépendre de ce qu'il montre à l'entraînement. Ça, c'est ce qu'on verra pas nous, parce que s'il joue pas beaucoup la première année, nous, on a moins l'idée de qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais eux vont le voir à tous les jours, puis ils vont être en mesure de se faire une tête sur est-ce qu'il va embarquer l'an prochain ou etc.
En tout cas, c'est bon pour les programmes de football québécois. Là. C'est quand même une acquisition pour... en fait, c'est toute une victoire pour les programmes québécois de savoir que un joueur a été recruté par Alabama. Puis si ça va bien, ça veut peut-être dire qu'il va y en avoir d'autres qui vont regarder par ici. Et...
c'est quand même, c'est une maudite belle histoire quand tu penses à ça. Le gars est arrivé à Lac-Mégantic. C'était quoi les chances qu'il se fasse remarquer là-bas? Après ça, il a joué au CNDF. T'sais. Ça nous montre aussi que nos cégeps peuvent former des joueurs de grande qualité. Là. T'sais, le gars, il s'est pas exilé aux États-Unis à 13, 14, 15 ans. Là. Il a joué ici, il a connu du succès ici. Puis évidemment, il y a un physique qui joue pour lui. Là. On parle d'un 6 pieds 5, 270 environ. Là. Il peut devenir un monstre une couple d'années. Là. Mais ça reste que les programmes d'ici l'ont bien formé. Il y a eu du bon football ici. Puis c'est très encourageant pour la suite.
Prochaine question de Pierre qui nous dit qu'il est un nouveau fidèle et qui a débuté à nous suivre cette année. Bienvenue Pierre. Ah. Alors sa question pour lui, pour nous, ne serait-il pas temps que la NFL mette en place un système de localisation du ballon pour le GPS, par GPS pardon. On m'a dit que cela serait techniquement possible. Je suis toujours un peu perplexe lorsque je vois les arbitres mettre leurs pieds afin de marquer l'endroit où le ballon se situerait, alors ainsi que les chaîneurs qui se déplacent. Cela me semble un anachronisme dans un sport qui, par ailleurs, a beaucoup évolué avec la technologie. Avez-vous des informations à ce sujet ou êtes-vous au courant de discussions en ce sens, passées ou présentes? Merci, Pierre.
Oui, c'est déjà une technologie qui est possible, qui est utilisée d'une certaine façon. Là. La NFL a des puces dans ses ballons déjà, mais ça sert à mesurer tout plein d'affaires autre que le spot exact du ballon. C'est bizarre, là, mais il y a plein de choses qui sont mesurées comme ça. La distance des passes, pis ci, pis ça, là, la vitesse des joueurs, entre autres, aussi, des fois. La USFL aussi, qui est une ligue alternative, utilise une puce. Puis la NFL, l'année passée, je me rappelle qu'il avait dit on est à l'affût, on surveille ça. Là, il y a des joueurs de la USFL qui avaient dit ouais, mais ce qu'il y a dans le ballon, l'espèce de dispositif qu'on a mis pour évaluer les distances puis tout ça, on trouve que ça rend le ballon un peu moins fonctionnel, un peu plus lourd. Fait que là, c'est sûr que si les joueurs se mettent à dire ça, ça aidera pas. Tu sais, je suis pas dans la techno là à profusion, mais je peux pas croire moi non plus qu'il y a pas des technologies que la NFL peut utiliser. Mais il semble en ce moment que c'est pas toutes les équipes, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec une formule comme ça. Fait que on reste dans le format un peu archaïque là, des bons vieux chaîneurs. Mais j'ai l'impression que tôt ou tard, à un moment donné, il va falloir se pencher là-dessus avec plus de sérieux.
Jérôme qui nous dit « Bravo pour votre émission. » Merci Jérôme. Noël approche et je me demandais à quand le livre... en fait, Noël est passé. C'est vrai, c'est une semaine, une question qu'on reprend de Jérôme qu'on n'a pas pu passer.
On l'avait gardé en banque, oui.
À quand le livre, les chroniques au bord pour mettre au pied du sapin de tous les amateurs de football? Et messieurs, il faudrait retourner dans nos archives pour tout ce qu'on a voulu offrir comme cocktail à nos invités.
On en a fait boire des affaires bizarres, hein?
Oui, on en a fait boire, puis on vous en promet encore cette semaine. Mais c'est vrai qu'on fait un effort supplémentaire à chaque semaine pour aller chercher un drink qui pourrait plaire à notre invité et qui a un rapport direct aussi avec la raison pour laquelle il se trouve au bar. Merci Jérôme. Joyeux Noël à toi et à ta famille. Merci de nous écouter et de toujours nous poser des questions. On va y aller avec Simon qui nous pose la question suivante. On parle souvent de la qualité de l'arbitrage dans la NFL. Personnellement, je trouve qu'il est globalement bon malgré certaines erreurs inévitables. Je suis surpris de lire autant de commentaires négatifs sur l'arbitrage alors que l'on entend souvent l'inverse, à savoir que la NFL est la ligue la mieux arbitrée et la plus rigoureuse. Ma question, pourriez-vous mentionner combien il y a d'arbitres sur un terrain de la NFL et nous décrire quels sont les rôles de chacun? Merci, Simon.
Ouais, Simon, la chance, ça m'a fait chercher un peu ça. Je savais qu'il y avait 7 arbitres là, sur le match, par match sur le terrain. Mais qu'est-ce que chacun fait, tout ça, là? Je suis allé le vérifier parce que, sincèrement, j'étais pas au courant de tout. J'avais une idée, mais c'est intéressant quand même. On va essayer d'y aller rondement parce que chaque arbitre a pas mal de responsabilités, mais je résume ça au plus simple possible. Tu sais, t'as d'abord l'arbitre en chef. Souvent, on va le distinguer par le fait que c'est lui qui porte le chapeau blanc et non noir. Puis il est placé, lui, derrière l'offensive. Puis souvent, là, en gros, lui, il va compter le nombre de joueurs. C'est lui qui va observer le corps arrière sur les jeux de passe. Donc, est-ce qu'il y a rudesse? Est-ce qu'il y a, je sais pas, là, est-ce qu'il s'est débarrassé du ballon intentionnellement, intentional grounding? Tu sais, toutes les punitions autour du corps arrière. Il va surveiller aussi le porteur de ballon sur les jeux de course. Donc, est-ce qu'il y a faute à son endroit ou lui, est-ce qu'il y a une faute à l'endroit de la défense? Après ça, t'as celui qu'on appelle le umpire. Lui, il est derrière les secondeurs. Il est plus du côté défensif au milieu du terrain. Puis c'est lui surtout qui va observer est-ce qu'il y a des pénalités pour avoir retenu, est-ce qu'il y a des blocs illégaux, est-ce qu'il y a un joueur inadmissible sur le terrain. Tu sais, le fameux, on l'évoquait, il y a un auditeur l'autre jour qui nous demandait là, d'où ça venait les ineligible men downfield. C'est lui qui tient le décompte des points, des temps d'arrêt, des choses comme ça. Après ça, ben t'as le juge de ligne en chef. Lui, il est à la ligne de mêlée là, d'un côté du terrain. C'est lui qui va surveiller, évidemment, s'il y a des situations de hors-jeu, si un joueur est bien positionné ou pas, là, à la Kadarius Toney, évidemment. C'est lui qui est en charge des chaîneurs, du positionnement du ballon aussi. Puis les autres juges qui restent...
Mais les chaîneurs, tu ne rentres pas dans les arbitres, là?
Non. Non, ben non. Moi, je tiens compte des arbitres. Là, ils font partie du personnel, là, je sais pas de quoi exactement, mais c'est pas
mais
des
c'est
arbitres.
Pas des arbitres.
Ils prennent pas de décision comme telle. Je disais le juge de ligne en chef. Il y a un autre juge de ligne. Il fait exactement la même chose, mais de l'autre côté du terrain. Puis là, après, tu as les trois... J'avais de la misère à le traduire. Là. Il y a le field judge, le side judge et le back judge. Dans le fond, le field judge, lui, c'est les trois arbitres qui sont plus profondément sur le terrain, derrière les demi-défensifs, c'est complètement au fond. T'en as un qui va être d'un côté, le back judge va être au milieu et le side judge va être de l'autre côté là, du field judge. Ceux autres qui vont, entre autres, évaluer est-ce qu'il y a des interférences, évidemment, est-ce qu'un receveur a été retenu, est-ce qu'il y a des pénalités, par exemple, pour avoir retardé la partie, c'est eux autres qui vont déterminer si une passe est complète ou pas. Fait qu'en gros, tu sais, il y a d'autres responsabilités, là, mais j'en aurais eu pour une heure. Ça résume assez bien ce que chaque arbitre fait sur le terrain.
Bon, merci, là, je vais passer un mauvais quart d'heure.
Oh boy. Ah oui, là, je le sais, je l'ai vu, celle-là.
Là, Tommy,
C'est bien que tu le fasses, Jean-Nic, parce que Tommy a des points.
Ça fait partie de ma thérapie, je sais.
Tommy a des points.
Au début de l'année, j'ai eu maille à partir avec, pas juste Tommy, là, avec d'autres partisans des Dolphins qui s'en prenaient un peu à mon négativisme. Puis, je les comprends. Je suis pas un expert. Moi, je suis un partisan un peu bouillant. Et j'ai traversé des périodes sombres. Ça fait 20 ans, 22 ans qu'on n'a pas gagné un match en playoff. Et j'ai souffert de ça et ça laisse des marques. Et parfois, j'ai de la difficulté à évaluer en toute lucidité la qualité de mon alignement. Et en début de saison, on m'avait reproché ça et j'avais repris le crachoir pour dire qu'au contraire, j'avais raison. Les Dolphins s'étaient pas améliorés, qu'on était aussi bons, sinon moins que l'an passé, et qu'on allait connaître une saison difficile au point où on allait avoir une fiche qui n'allait pas nous permettre d'aller en séries éliminatoires. Eh bien, Tommy là, a ressorti tout ce que j'ai dit lors de cette triste émission. Et ouais, il y a beaucoup de pouces par en bas.
il dit, tu comprendras pourquoi j'avais été aussi raide avec toi dans mon mail qui avait vu juste d'ailleurs.
Oui. Mais j'ai toujours quand même plaidé l'émotivité extrême pour expliquer mon approche avec les Dolphins. Le reste des autres équipes, je suis capable d'avoir un jugement plus neutre, mais j'avoue que quand ce qui a trait des Dolphins, je suis trop émotif. Là, il me dit, tout comme toi, je suis très émotif avec mon équipe préférée. J'ai souffert de nombreuses années avec trop de moments, That's So Dolphins, qui ruinaient mon humeur. Mais ce temps-là est enfin terminé. Donc, il serait temps pour toi, en parlant de moi, d'enfiler fièrement mon gilet de toi une fois pour toutes et d'oublier les années noires. Maintenant, c'est fins up et c'est le temps de sourire et d'y croire. Le championnat de division est à notre portée, on s'en va en série. C'est enfin à nous de regarder les Pats de haut, puis on est clairement meilleur qu'eux. On l'a, notre franchise QB, donc l'avenir est prometteur. Go Dolphins, we bleed aqua and orange. OK, Tommy, j'avoue que là, je vais me ranger de ton côté. La plus belle preuve de ça, je les ai mis gagnants en fin de semaine contre les Ravens. Let's go, fins up.
J'ai hâte de voir contre les Bills la semaine d'après si tu vas pouvoir garder ton enthousiasme débordant.
Ouais, une semaine à la fois. Mais les Bills sont pas convaincants non plus. On va voir de quelle façon ils se débrouillent contre les Pats en fin de semaine. Mais on les a tous les deux mis vainqueurs, mais on a tous les deux des doutes. Fait que
c'est une fin de saison le fun.
Alain, The Revenge of the Birds, qui nous dit l'an dernier dans une entrevue à la radio, Stéphane avait comment ça une entrevue à la radio? Tu fais des entrevues à la radio puis tu me parles sans moi?
Ouais, c'était arrivé que je me sépare temporairement de toi, qu'on m'accorde le crachoir.
Faut que je te surveille.
C'est comme ça la vie, Jean-Nic.
La loyauté, hein? C'est pas ton fort.
Non, mais je mentionne toujours qu'on forme un couple professionnel et qu'on est des complices. Ouais.
Stéphane avait comparé la saison de football à un pâté chinois réchauffé au micro-ondes. Parce qu'en plus, tu gardes tes meilleures images pour d'autres mondes.
Hey, mais ça, là, j'en ai dit des niaiseries dans ma vie, Jean-Nic, pas juste sur le podcast, là.
Ouais. Fait que tu disais que la saison de football était comparable à un pâté chinois réchauffé au micro-ondes, donc je présume que c'était pas bien bon. Et que la saison de cette année, tu la comparais à quoi si tu avais à faire ce même genre d'analogie brillante?
Grosse question, Alain, Revenge of the Birds. J'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, on a toujours dit depuis un bon mois là que c'est l'année, clairement l'année des backups dans la NFL. T'es d'accord, Jean-Nic?
Ça fait partie des choses qui vont être dans le bilan.
Ben oui, c'est clair. Pour moi, c'est un point
majeur. Mais c'est pas la seule chose.
Non, mais ça m'a marqué quand même.
C'est pas ce qui est marquant, là.
Ben, il y a beaucoup de réservistes à gauche, à droite, là, quand même. Moi, je trouve que c'est un point important cette année. Ça me fait penser au fait que il y a bien des équipes cette année qui s'étaient préparées des grands festins. Là, t'sais, on sort la grosse pièce de viande, on se cuisine des légumes, une entrée de fruits de mer, puis là, c'est le gros festin. Puis tout à coup, écoute, t'as tout rassemblé tes ingrédients, là, t'as magasiné tes épices, puis tu fais ta sauce. Puis finalement, tout tombe flat, ton corps arrière se blesse. Ta recette que tu pensais qui serait merveilleuse, elle fonctionne pas pantoute. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu cales de la pizza, mon Jean-Nic. Fait que c'est à ça que ça me fait penser, la saison. Moi, je vais dire une livraison de pizza. C'est ça, là. T'es pas obligé de mettre ça
parce que ce que tu avais préparé a pas marché. Fait que tu veux pas laisser tes invités en plan.
Ben non, tu peux pas rester affamé. Il faut manger dans la vie, là. Fait que c'est un peu une saison de pizza commandée. Mais ça, c'est une très bonne. Tu sais, finalement, quand tu manges ta pizza, c'est très appréciable. Elle est excellente. Ça te réconforte parce que tu te dis, finalement, on mange quand même bien. Fait que je le vois comme ça. C'est une saison qui est quand même bien. C'est mieux que l'an passé, mais il a fallu se tourner vers d'autres plans. Est-ce que c'est une bonne image, ça?
Très bien. J'adore ça. On finit avec du Uber Eats. C'est très bon.
Excellent.
Rapidement, on va poursuivre avec deux petites questions, si tu veux bien. On va y aller avec Lauriane, notre copine française. Alors, Lauriane, comment ça va?
Je souligne qu'elle est revenue. Tu t'es posé la question la semaine passée, à savoir si elle nous boudait. Alors, tu vois, elle nous boude pas du tout.
Alors, bon retour avec nous, Lauriane. Je présume que tu nous as pas écouté la semaine passée, c'est encore pire. Quand je vois les joueurs arriver comme des bulldozers tête première pour plaquer, je me demande si une réglementation des plaquages est en discussion.
Il y a déjà pas mal de règlements sur les plaqués. je comprends là que des fois ça peut
parce qu'elle, elle nous amène un peu de culture européenne en nous disant qu'au rugby, les gamins apprennent à plaquer dès 5 ans à ne pas frapper en dessous de la ceinture.
Ouais, mais
fait que non, qu'ils ne doivent pas attraper au-dessus de la ceinture.
C'est de plus en plus la NFL. De plus en plus, le football dans la jeunesse est enseigné comme ça aussi. Là. On envoie de moins en moins des coups à la tête. Les joueurs se font enseigner à plaquer différemment. Tu mets plus ton poids sur le corps arrière quand tu le rabats au sol. Tu sais, oui, il arrive des fautes ici et là, mais de manière générale, je pense que c'est beaucoup mieux encadré. Donc, est-ce qu'il y a des règlements en discussion? Personnellement, j'espère que non, parce qu'il faut quand même pas non plus enlever tout l'aspect physique du jeu. Il y a même des joueurs qui sont punis lorsqu'ils, comment qu'on dit ça, le lead with the crown of the helmet, là, ils attaquent avec le casque directement. Il y en a quand même pas mal là, des règlements qui ont été adoptés à ce niveau-là dans les dernières années. Moi, je pense que pour l'instant, du moins, là, la Ligue est assez confortable avec ça.
Jean-François Tremblay qui nous dit, est-ce que Taylor Swift a brisé Travis? On en parlait un peu tantôt. Lui, il dit, je suis nerveux pour mes deux finales fantasy. D'abord, c'est une façon de se vanter. Là, on n'est pas épais, Jean-François. Là. Merci de ta question, là, mais on comprend bien que c'est pour te mettre en valeur en nous disant que tu es en deux finales fantasy. Et là, je pense qu'il veut des conseils de ta part sur Travis Kelce. Est-ce qu'il doit faire jouer Travis Kelce en fin de semaine? Puis moi, je vais même t'ajouter une autre question à ça, parce que j'ai Hockenson dans mon pool, et moi aussi, je m'en en finale dans une de mes pools fantasy. Je le remplace par qui?
TJ Hockenson? Hey, c'est dur de remplacer à ce stade-ci, ça, c'est pas facile. Surtout qu'avec les Vikings, c'est clairement lui qui était l'option, que ce soit Bond ou que ce soit Oliver. C'est pas fameux. Fait que toi, t'es dans le trouble, vraiment. Jean-François, il y a des chances de s'en sortir. C'est sûr que, bon, il y en a qui disent que Travis Kelce a les jambes un peu plus molles là, depuis qu'il est avec Madame Swift. Mais écoute, tu peux pas l'écarter de ton alignement. Tu peux juste pas. Il y a toujours la chance que ça soit la semaine où il pogne 6 passes pour 122 verges puis 3 touchés. Tu sais, Travis Kelce, ça peut être ça aussi. Fait que moi, je le changerais pas, je le garderais dans mon alignement. Toi, Jean-Nic, ben, il va falloir s'en reparler là, cette semaine. On va chercher des solutions.
Est-ce que je mets Schultz? Est-ce que je mets Taysom Hill? Likely?
Ouais. Taysom Hill, est-ce qu'il compte vraiment ses points comme tight end?
Oui.
Ça, je trouve ça ridicule. Il doit jouer 3 snaps par année comme tight end. On a eu cette discussion-là dans notre ligue de chum l'année passée, là. Je sais pas pourquoi il est listé tight end. C'est une aberration.
Sinon, j'ai Likely contre Miami ou Schultz qui est sur le waiver contre Tennessee.
Likely joue plutôt bien depuis la blessure de Mark Andrews. Ben, c'est pas Mark Andrews.
Il y a eu 3 catchs en fin de semaine. C'est pas beaucoup.
Ouais, mais c'est pas la semaine d'avant qu'il y avait 2 touchés.
Oui, oui, oui.
Mais là, contre Miami, faut voir toutes les semaines.
Ouais, ben moi je suis dans le trouble. Sinon, il y a Everett aussi avec les Chargers parce que Stick il joue un peu avec là.
C'est sûr qu'un corps arrière jeune qui voit pas trop le terrain a tendance à se rabattre vers un ailier rapproché. Là. C'est depuis la nuit des temps. Mais on en reparlera hors des ondes, on va te trouver des solutions.
Ouais, puis vous pouvez nous poser des questions aussi sur nos précieux conseils de fantasy. On en parlera après la séance de questions, mais vous savez que vous pouvez devenir membre de ce groupe et nous poser des questions. C'est Steph vous aide pour gagner votre finale de ou même vous classer parmi les 3 premiers de votre pool en fin de semaine. Et là, on finit avec le moment Robin. Le moment Robin n'est pas le même sans son indicatif musical. C'est de l'aveu même de Robin. Je suis d'accord, j'ai encore essayé, et Dieu m'en est témoin, et Stéphane aussi, ce n'est pas la même personne, que j'ai essayé de retrouver les indicatifs musicaux. Là, je vais être obligé de faire... Je sais pas ce que je vais faire, mais tout comme le sifflet, hein?
Il Robin dit «
Get your act together ».
Ouais, c'est ça, « Get your act together », il aurait pu être encore plus...
Ouais, direct.
Ouais.
Sa question. Avec la fulgurante et inquiétante progression de l'intelligence artificielle au cours de la dernière année, peut-on envisager que dans un avenir pas si lointain, tout l'arbitrage des parties de la NFL sera complètement monitoré sous contrôle de l'intelligence artificielle? Les arbitres sur le terrain étant relégués à un rôle secondaire pour l'aspect pratique, la logistique. Écoute, c'est des discussions qui ont bien plus court dans d'autres sports, entre autres le baseball, là, tu sais, parce que la zone de prise, là, on le voit maintenant, là, est évidente, là. On pourrait même pas avoir de ref en arrière pour l'appeler, pourtant.
Il y a tellement de choses à surveiller sur un terrain de football, là, tantôt. Ouais, j'écoute juste ce que je te disais tantôt, là. Je te faisais un résumé, ben, en fait, c'était pour la question de Simon Lachance, mais il y a tellement de choses à surveiller partout. Sauf que ça évolue à un rythme fou, l'intelligence artificielle.
Puis on peut pas dire
que ma réponse, en fait, c'est que j'espère que non. J'espère qu'on va toujours laisser un côté humain dans le football. Est-ce que le sport serait parfait pour autant? Là? Moi, à un moment donné, je préfère croire qu'un humain va faire le travail, mais si on en arrive là un jour, je serais pas si surpris que ça en même temps. Mais mon feeling personnel, c'est j'espère que non. J'espère que on va toujours laisser l'humain au cœur de la patente, là, parce que on va perdre le contrôle dans pas long.
Merci Robin, merci à tous ceux qui nous ont envoyé des questions cette semaine encore. Merci à toi Steph d'avoir fait toutes tes recherches pour bien leur répondre. Vous pouvez continuer de nous écrire pour nous envoyer des questions. Il y a plusieurs façons de nous joindre. Vous pouvez nous interpeller sur les médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire des questions dans le groupe Facebook dont je faisais mention tout à l'heure, qui s'intitule « Nos précieux conseils de fantasy football ». Vous avez juste à devenir membre. On a dépassé il y a quelques semaines le 1000 membres sur notre page. Alors, n'hésitez pas à vous joindre à eux. « Nos précieux conseils de football, de fantasy football » sur Facebook. Et vous pouvez aussi, bien sûr, nous rejoindre par courriel. À quelle adresse?
La zone payante à commercialquebecormedia.com.
Merci Steph. On fait une pause et ensuite, c'est la chronique au bar. On est de retour à la zone payante pour le segment favori de plusieurs. C'est celui où on se détend et on s'en va au bar. On a passé un beau podcast, on a travaillé fort, c'est le temps de se détendre un peu. Souvent, c'est pour punir quelqu'un qui a fait un geste de cave. Souvent, c'est pour ramener, mettre en lumière quelque chose qui serait arrivé dans les derniers jours que... Et passer peut-être sous les projecteurs et c'est notre rôle de vous le faire connaître. Et aussi, des fois, c'est pour des petits combats personnels. Hein? Des fois, nous, on veut pousser notre agenda puis on se dit, hey, nous, on a un point de vue sur quelque chose puis on aimerait ça que notre petite pierre dans le mur en face soit suffisante pour qu'il soit repéré. Qu'est-ce que tu as envie de faire repérer à nos auditeurs cette semaine, Steph?
Moi, j'ai envie de te demander, à toi, aux auditeurs, est-ce que tu connais, toi, Alex Moore?
Alex Moore, ça a l'air d'un genre de pilote automobile ou d'un chanteur de groupe punk des années 90?
Non, tu y donnes trop d'importance. C'est un arbitre. Ah. Puis pourquoi je te parle de lui, c'est pas pour une mauvaise décision. On va changer un peu là dans le
bord. Tell me more!
Toujours... Oh!
Merci à tous. Fort. Bonne nuit.
Ta vivacité m'étonnera toujours.
Incroyable.
Alex Moore, c'est juste parce que c'est drôle, Jean-Nic. Là. T'sais, mec, je te dis, c'est qui? Tu vas dire, ah ben oui, tu sais, c'est comme un... T'entends un vieux hit à la radio, puis tu dis, c'est qui donc qui chante ça? Puis, ah,
Flock of the Seagulls, ben oui!
Fait que Alex Moore, c'est celui qui a reculé dans le match Ravens 49ers. Il est dans la zone début. Lamar Jackson s'en vient avec le ballon. Il se dérobe un peu. Puis en voyant Lamar arriver à pleine vitesse, ben notre bon Alex Moore recule. Il s'enfarge dans ses bottines. Il s'en mêle les lacets. Il tombe sur le dos. Puis là, il a les jambes en l'air. Puis Lamar court vers lui. Et Lamar trébuche, il s'enfarge dans les jambes de l'arbitre, tombe à terre, puis ça finit en toucher de sûreté pour les 49ers. Fait que, tu sais, ça aurait pu être un jeu là, vraiment dramatique presque pour les Ravens. Mais fort heureusement pour eux, ben ils s'en sont sortis gagnants. Ça a finalement pas eu d'impact. Puis après le match,
t'es en train de reprocher à un arbitre d'avoir fait un tackle.
Ben oui, quand même. En plus, un tackle pour perte. Puis On pourrait même dire un sac qui a résulté en safety. Tu sais, c'est rare un arbitre qui fait un sac du corps. C'était pas voulu, évidemment. Puis Lamar Jackson, après le match, il a été bon prince. Il a dit, ouais, tu sais, ça arrive, l'erreur est humaine. Puis on s'est parlé, on est all good. Mais imagine si c'est le jeu qui avait fait basculer le match puis changer la saison des Ravens. Ça aurait été quand même quelque chose.
Non, assez c'est sûr que le match allait gros, pas finir 2-0, là, ça c'est sûr, mais non, si ça avait été en prolongation.
C'est ça, là, tu sais, les Ravens qui perdent par 2 points, puis là, tu fais oh palaï. Imagine la controverse d'enfer. Fait que tu sais, ça n'a pas été le cas. Mais quand même, juste pour rire, on envoie Alex Moore au bord et on lui sert, tiens-toi bien, un dirty referee, mon ami. Ça existe. Ça existe. 3, c'est tout simple, c'est un shooter. 3/4 d'once de scotch au fond d'un shooter et tu rajoutes 1/4 d'once de crème de cacao blanche sur le oui, top. Pardon. Ouais, fait que ça te fait comme un peu un arbitre, là, j'imagine, comme concept.
Ah, la crème, je vois ça, je comprends, je viens de comprendre.
La crème peut-être se mélange pas puis tout ça. Fait que bon, dirty referee. Fait que je suis encore une fois épaté par tout ce qu'on peut trouver
un dirty
sur le marché de l'alcool.
Merci. Moi, écoute, je vais amener Antonio Pierce au bar.
Hein? Comment ça? Moi,
ben, d'un, je l'aime. Ça, c'est un des cas où je vais apporter quelqu'un au bar.
Pour une table dans le dos?
Ben, une table dans le dos, puis aussi pour montrer à Mark Davis, là. Tu sais, je vais même aller chercher pendant la pratique. Pendant que tout le monde a les yeux dessus, là, je vais l'amener, puis je vais dire, hey, Antonio, viens ici, puis là, je vais l'amener, je vais dire, hey, mon vieux, ta pratique est finie pour aujourd'hui, tu t'en viens avec moi au bar. Là, on va partir toutes les deux, bras dessous, puis Mark Davis va te regarder partir, puis il va dire, hey, pourquoi il s'en va, lui? Pourquoi il part avec mon coach? Parce que c'est mon coach par intérim. Mais peut-être que si je l'avais nommé coach, il se ferait pas cruiser par d'autres gars qui veulent l'amener au bar. Parce que c'est ça que je veux qu'un Mark Davis comprenne. C'est qu'Antonio Pierce, pendant qu'il est en train de ramener les Raiders à la vie, là, puis leur donner une shot à la division, on le disait tantôt, faut qu'ils gagnent les 2 prochains matchs.
C'est un gros aussi.
Que les Chiefs perdent leurs 2 derniers matchs. Ils sont
un gros aussi, ça aussi.
Ouais. Mais ça fait combien de temps que, à 2 matchs de la fin de la saison, les Raiders avaient encore une shot pour la division? Ils l'ont pas gagné depuis 2002.
T'amènes Pierce au bar puis tu lui retires son petit il y a comme un petit écusson ici là sur le cœur écrit intérim.
Moi là, je veux montrer à Mark Davis là qu'il y a du monde qui sont prêts à cruiser Antonio Pierce après ce qu'il vient de faire. Puis que s'il nomme pas coach des Raiders puis qu'il enlève l'étiquette d'intérim, ça se peut qu'il perde Antonio Pierce. Ça se peut qu'Antonio Pierce, qui a grandi comme fan des Raiders, se dise, hey, si je peux même pas avoir la reconnaissance de mes boss après avoir tourné le bateau au complet, ils ont fait un 180 degrés avec les Raiders depuis qu'il est là, mais je vois pas comment qu'il pourrait avoir plus de respect, comment qu'il pourrait aller chercher le respect qu'il mérite sans aller voir ailleurs pour montrer qu'il serait capable de prendre une équipe sous sa charge avec, le nom de coach et pas coach par intérim.
C'est un excellent call, mais je vais me permettre une question. Pourquoi c'est pas Mark Davis que t'envoies au bord, tout simplement?
Ben, ça me tente pas, hein, Mark Davis. Non. Je sais que lui, il me payerait sans doute la bière et d'autres affaires, mais non. Mark Davis.
Ça donne pas le goût de boire une bière avec.
Non. Ça me donne pas le goût de boire une bière avec. Il coiffe. Mais quoi que peut-être que je pourrais. C'est une des seules personnes avec qui je peux aller dans un endroit public et que les gens vont dire « Ah, putain, Jean-Nic, il a une belle coiffure. » Fait que peut-être que il y aurait cet aspect qui serait positif, que j'aurais l'air mieux coiffé que quelqu'un. Ouais. Mais en général, même Antonio Pierce, je vais vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux non plus, mais Antonio... que Mark Davis dise « Oh, ouais, je serais peut-être en train de le perdre, il y a du monde qui est en train de le cruiser. » Antonio Pierce, là, s'il gagne en fin de semaine, il va être 5-3. Ils sont 4-3 en ce moment, les Raiders. Ils sont dans la course pour aller chercher le championnat. Même si ça va prendre beaucoup d'aide. Ils n'ont pas gagné depuis 2002 le championnat de division. Moi, je pense qu'il mérite qu'on attire l'attention sur lui, puis que avant la fin de la saison, on retire l'aspect d'intérim sur son nom de coach. Et pour ça, je vais lui faire boire pas de l'alcool cette fois-ci. Là, j'ai décidé là d'aller dans le smoothie. Là, ça sera pas un cocktail. Fait que je veux qu'il garde toute sa tête là, jusqu'à la fin de la saison. Fait que je veux qu'il boive quelque chose qui va lui permettre de rester focus, à la fois santé et à la fois sans alcool. Donc, je fais boire un smoothie coach. Écoute ça, là. Purée de fraises.
Hey.
Purée de pêche.
Wow.
Jus de framboise. Et un peu de sirop de gingembre. Et on sert ça dans un verre old fashioned.
Okay.
Donc, moi, je considère que c'est très Antonio Pierce. Ça va être très bon pour lui jusqu'à la fin de la saison. Donc, un smoothie coach pour Antonio Pierce qui mérite qu'on retire la marque, l'intérim de ses fonctions de coach.
Il y a toutes ses vitamines là-dedans, ça, c'est sûr.
Non, mais avoue, ils peuvent pas faire deux fois la même erreur. L'année passée...
Ben, il l'avait fait avec Bisaccia, puis il l'avait regretté, là, Davis, ben oui. Il l'avait dit, là. Fait que c'est sûr que ça va peut-être y jouer dans la tête.
Voilà ce qui conclut un autre épisode de La Zone Payante. Merci, Steph, d'avoir été là encore cette semaine. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera la veille de la dernière saison, la dernière émission avant la dernière semaine de la saison régulière. Merci à vous d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye.